Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, à toute une chacune et à tout un chacun, encore comme tous les deuxièmes mardis de chaque mois, l'émission « Et si on en parle ?», émission qui a pour objectif de parler de choses dont on ne parle pas, ou de parler de choses dont on parle insuffisamment, ou de parler de choses dont on parle mal. Alors ce soir, pour parler un peu de l'actualité, l'actualité du monde, du reste on va dire, je reçois deux personnes de l'association Alternativa, et c'est Anne-Sophie Trujillo, bonsoir.
Bonsoir.
Et Vincent Verlus, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, association dont on entend un petit peu parler dans la région, puisque cette association fait partie les membres de cette association font partie d'un mouvement qui a mené des actions non violentes pour protester contre, ben ma foi, l'état de notre planète, et surtout pour protester contre l'inaction des politiques, alors qu'ils savent tout, ou presque, face à cet état qu'il est hors de question de remettre en doute. Décrochage du portrait de Macron, des rassemblements, etc. On en reparlera. Mais avant, on va commencer par présenter cette structure, cette association Alternativa, qui fait partie d'un réseau. Alors, on peut avoir un petit historique ?
Eh bien, Alternativa est née il y a maintenant plus de presque 4-5 ans, est née de la volonté de agir localement pour le climat et pour dire qu'il était possible aujourd'hui de relever le défi climatique et d'agir sur son territoire pour arriver à des solutions nous visant à une résilience par rapport aux phénomènes de dérèglement climatique qui sont une réalité aujourd'hui. Donc Alternativa est née, c'est un peu la petite sœur d'un mouvement qui s'appelle Bizi au Pays Basque, qui existe depuis un peu plus longtemps, 2009. Et Alternativa est née surtout de la volonté de faire émerger ces transitions qui existent déjà, enfin ces solutions alternatives qui existent déjà au monde consumériste et qui tue un peu l'humain sur la planète, et a créé comme ça un grand circuit en France par un tour à vélo en 2015 qui a été la possibilité, qui a donné la possibilité de créer des villages alternatifs. Mmh. Village Alternativa, ça veut dire alternatif en basque.
Oui, bien sûr, ouais.
Et donc, on a aussi, nous, à Villefranche-sur-Saône, en octobre 2016, fait un village des alternatives sur la place du Promenoir.
Oui, oui, nous y étions.
Et oui, je me souviens très bien. Et donc, du coup, Alternativa vise à sensibiliser la population, à travailler avec les élus pour que des solutions rapides et radicales. Aujourd'hui, on parle de radicalité parce qu'on n'a plus le temps vis-à-vis des dérèglements climatiques dans lesquels on est. Et donc, du coup, on propose de passer à l'échelle toutes les alternatives qui peuvent exister pour lutter contre le réchauffement climatique, que ce soit en alimentation, en rénovation, etc. etc.
Voilà, parce que y a une conséquence, mais les causes sont multiples.
Oui, oui, oui. Mmh. Et puis, Alternativa, la volonté qu'on a, c'est à la fois de montrer qu'il y a des solutions, qu'elles existent et qu'elles sont sur les territoires. Et puis, on a ce qu'on appelle notre deuxième jambe. On est sur deux jambes. Et la deuxième jambe, c'est celle des actions de désobéissance civique non violente.
D'accord, nous en reparlerons plus précisément.
Action non violente COP21.
Alors, des collectifs, des... Oui, un petit...
Oui, j'aurais peut-être voulu ajouter quelque chose, Anne-Sophie, sur le fait que Alternativa a quand même parmi ses caractéristiques le lien de faire le lien en permanence entre le défi climatique et la justice sociale. C'est partie de l'ADN d'Alternativa et de Bizi. Également le lien entre le global et le local, mais ça, on y reviendra, au local, je pense. Complémentarité, on l'a dit, entre la dénonciation et la proposition, là aussi on y reviendra. Et puis une vision, mais ça, Anne-Sophie, qui est un peu à l'origine de la création du mouvement ici sur Villefranche, pourra en parler mieux que moi, une vision un petit peu particulière de l'organisation et des modes de fonctionnement qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les associations.
Voilà, ça allait être ma question. Du reste, en cette période où le verre est à l'honneur, hein, n'est-ce pas? Donc, Il y a, et puis même au préalable, il y a toujours eu, du reste, enfin depuis de nombreuses années, une multitude de collectifs, d'associations, d'organismes qui ont comme objectif de protéger la planète, des fois qui travaillent côte à côte, des fois qui se regroupent pour des actions ponctuelles, mais après, bon, chacun retourne un peu sur son territoire et sur ses actions, et des fois même sur ses obsessions, pour certains. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec Alternativa ?
Alternativa, c'est vraiment c'est né de l'échec un peu des politiques sur ces différentes COP, hein, ces réunions des États pour faire le point sur la planète, et la volonté de mettre en mouvement les citoyens pour qu'ils fassent le poids vis-à-vis des politiques. Et donc, du coup, très rapidement, Alternativa, qui est donc, je vous le disais, née de Bizi, cette association Pays Basque, qui avait de nombreuses luttes autonomistes dans sa besace. Alternativa s'est créée autour d'une volonté de fonctionnement assez carré et assez efficiente. Donc, on a différentes règles de fonctionnement qu'il faut qu'on ne perd pas beaucoup de temps en réunion et qu'on est très vite dans l'action. Donc on a des principes de travail d'ordre du jour avant chaque réunion, de manière collaborative et transparente, tenue de réunion de manière tournante aussi, avec des rôles très précis, un animateur, une prise de notes, un partage des prises de notes après. On commence à l'heure, on finit à l'heure.
Oui, c'est possible.
1h30 de réunion, 2h maximum. Du minutage très précis de chaque point à l'ordre du jour, un travail en autonomie de chaque groupe de travail. On va parler tout à l'heure de nos groupes de travail. Donc chaque groupe de travail est autonome dans son travail. Et puis c'est la coordination après qui prend, où chacun est représenté, qui prend des décisions assez rapidement. Donc ce qui fait que tout un fonctionnement qui fait que tous les militants se retrouvent en fonction de leurs possibilités, en fonction de leur capacité à pouvoir être là ou pas. On n'a pas des réunions à rallonge, donc ce qui fait que les jeunes parents peuvent être là parce qu'ils savent de quelle heure à quelle heure ils seront absents. Voilà. Et puis après, on a ce travail en coalition avec toutes ces associations dont vous faisiez allusion un petit peu. Et comme disait Vincent, je pense par exemple à ATTAC ou à d'autres assos, Greenpeace ou les Amis de la Terre, qui sont des collègues très proches. Avec qui on a beaucoup de travail en commun et avec qui on se retrouve sur certaines luttes, sur certaines thématiques.
Alors dans ces deux jambes, il y en a une qui est celle qui a fait un peu le buzz dans la presse locale, mais pas que. Du reste, c'est justement la partie action, quoi. Donc action non violente, donc telle que c'est ANV, c'est ça que ça veut dire, hein, telle que c'est dans le titre. Hein. Alors des fois, quand on a deux pieds comme ça, surtout quand c'est un peu à l'initiative du Pays Basque, parce que je connais un peu cette histoire, il y a la branche officielle et puis il y a la branche un petit peu de terrain, quoi, on va dire. C'est le cas chez vous ou bien c'est vraiment...
Ce sont deux jambes assez différentes, hein, la jambe des propositions et la jambe de l'action non violente et de désobéissance civile. Après, c'est deux jambes qui sont totalement transparentes, qui effectuent leurs actions à visage découvert de manière déterminée et revendiquée. Donc non, il n'y a pas ce côté underground à la basque. Par contre, il y a effectivement quand on commence à les mettre en œuvre sur le territoire, et on l'a vu ici sur Villefranche-sur-Saône, quand on commence à la fois être dans un dialogue avec les autorités mais aussi en dénonciation de l'inaction quand on trouve qu'il n'y en a pas, du coup on peut avoir cette incompréhension au tout début par des élus qui nous disent on est assis à la même table et en même temps vous faites un dying devant chez nous, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ça rentre petit à petit dans la compréhension et ça va très bien.
Oui, moi je voudrais juste ajouter qu'on disait action non violente, c'est quand même très important. C'est-à-dire que la non-violence, c'est quand même un mouvement qui existe depuis des années, donné des résultats, et c'est bien pour ça que Alternativa et Bizi avant ont fait le choix de la non-violence. C'est parce qu'aujourd'hui on est face à un défi qu'il faut vraiment relever, il n'y a plus le choix, et finalement qu'est-ce qui est le plus efficace face à ce défi, c'est la non-violence. Les combats de Gandhi, Luther King, etc. sont des combats qui ont été menés dans la non-violence. Et si on veut attirer le plus de monde possible et ne pas être sur un terrain quelque part où finalement l'État est beaucoup plus fort que nous en matière de violence, eh bien il faut qu'on joue avec d'autres armes qui sont en plus plus reconnues et plus acceptées.
Alors, dans la non-violence, avec que certains médias ont de mettre des actes en vitrine, elle est galvaudée maintenant, parce que décrocher Macron, moi, on m'a dit que c'était un acte violent.
Oui, c'est ce qu'on nous a dit à la barre.
On a aussi dit que c'était un acte symbolique.
Oui,
on l'a écrit. La violence, finalement, c'est plutôt quand même celle du réchauffement climatique, du dérèglement climatique aujourd'hui. À côté de ça, le décrochage d'un portrait symbolique dont la présence dans une mairie n'est même pas obligatoire. À visage découvert, avec la présence de personnes qui sont là pour rassurer les occupants de la mairie au moment de l'intervention, avec toutes les précautions d'usage nécessaires. C'est un petit peu difficile de faire un rapprochement avec la violence.
C'est pour ça que les mots ont un sens et il est bon de les rappeler, dans quel contexte on agit et ne pas se contenter de commentaires d'éditorialistes.
Et la non-violence, nous, on la revendique à plusieurs titres. C'est non-violence vis-à-vis des personnes et non-violence vis-à-vis des biens également.
Parce qu'à cette occasion, on n'a dégradé
absolument rien.
Oui, parce qu'il y a eu des actes non-violents. Oui, il fallait brûler des panneaux publicitaires pour lutter contre les panneaux de co, etc. Ça, pour vous, c'est un acte violent.
C'est-à-dire qu'on va avoir, quand on prépare une action de désobéissance civile, on va se poser ce qu'on appelle le consensus d'action, où tous les membres participants vont se mettre d'accord avant l'action, jusqu'où on va aller ou pas.
Des modalités
de l'action. Et si effectivement, parfois, pour rentrer dans un lieu, quand on fait un blocage, il faut pousser des barrières et faire tomber des barrières, ça peut être décidé, comme ça l'a été à Pau quand on a bloqué un séminaire des pétroliers offshore. On voulait bloquer l'accès au séminaire pendant trois jours. Le deuxième jour, il y avait des barrières qui nous en empêchaient. Le consensus a été rediscuté la veille, en soirée, et on a décidé qu'on ferait tomber les barrières.
D'accord.
Donc voilà, il peut y avoir...
Ce qui ne se discute jamais, c'est la violence vis-à-vis des personnes, qu'elle soit physique ou psychologique.
Oui,
et si on se retrouve à un moment donné dans une action où on peut être infiltré, on peut avoir des personnes qui, sur le coup de l'énervement, ont des comportements inadaptés, eh bien on a toute une organisation qui font qu'on sait arrêter l'action.
Il y a des médiateurs,
mettre fin au risque de violence.
D'accord. Alors, si bien que les gens l'ont compris, puisque le maire dont la mairie a été visitée a retiré sa plainte, ou quelque chose d'approchant, quoi.
Alors, il a déposé plainte, par contre, il s'est constitué partie civile, mais sans demander des dommages et intérêts.
Voilà.
Donc, il était présent le jour du procès à Bourg-en-Bresse, mais sans demande de dommages et intérêts.
Voilà. Donc, on est dans le vert à tout prix maintenant, le vert est dans le fruit, je ne sais pas comment il faut dire. Les élections européennes, tout le monde crie bravo, tous nos hommes politiques mettent du programme vert, enfin du discours vert dans leur présentation, dans leur projet, etc. Vous en pensez quoi de ça, de cette vertitude?
Il est indéniable qu'il y a une prise de conscience de la population. Je ne parlerai pas des partis et du système partisan, mais au niveau de la population, il y a une prise de conscience qui se fait de plus en plus sur la nécessité de ne pas continuer comme on le fait. Après, on peut trouver qu'effectivement, la verdisation des programmes des partis politiques cache en fait beaucoup de choses. Et que chez Alternativa, depuis le début, notre motto, si on peut appeler ça, c'est « changeons le système, pas le climat ». Et « changeons le système », c'est radical. « Changeons le système », c'est changer le système capitaliste.
De télé, je les vois me raconter des salades, disent que la terre est en danger, disent que notre planète est malade, ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever, faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais, moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM, climat fond, 300 à l'heure, total, GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète. Niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous en enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Amen. Niquons la planète. Niquons la planète.
Voilà une chanson qui va bien avec, avec notre propos de ce « Et si on en parlait » de ce mardi soir. Alors, bon, voilà, maintenant qu'on a découvert un petit peu avec Anne-Sophie Trujillo et Vincent Verluis, l'histoire et puis la politique, on va dire, et les modes d'action d'Alternativa, on va un petit peu parler de ce qui se passe ici, quoi. Donc, alors, quels sont actuellement les axes de travail, les actions que vous menez, parce que bon, il y a énormément de choses, hein. Il y a un plan climat qui est en route, il y a tout plein de déclarations qui sont faites par les élus locaux et de l'agglomération sur des projets qui sont obligés par des décisions à prendre qui viennent de l'Europe et dont l'État français doit forcer la mise en place sur les territoires. Alors tout ça, ça donne des discours, le zéro phyto, le plan climat, la mobilité, etc. Donc forcément, vous êtes dedans. Comment ça se passe localement ?
Eh bien, il y a effectivement une obligation qui est assez récente pour tous les territoires de faire ce qu'on appelle un plan climat, pour simplifier, hein, sinon en langage jargon, c'est le PCAET. Mmh. Et ce plan climat, il doit permettre sur chacun des territoires de tenir les objectifs de l'accord de Paris. Mmh. Hein, donc c'est rester en dessous de 1,5 degré d'augmentation par rapport à l'ère pré-industrielle. Aujourd'hui, on est à presque 1,3. Donc on sait qu'on va dans le mur. Donc ça veut dire que ces PCAET, ces plans climat, ils doivent être extrêmement ambitieux. Et si on est très loin du compte sur notre territoire, on est très très loin du compte. Donc nous, on n'est pas des experts du climat ou de la mobilité ou de l'agriculture ou de la rénovation thermique. Par contre, on a un vrai regard citoyen éclairé. Et donc on a décortiqué ce plan climat depuis plusieurs mois maintenant, pour essayer de le lire, de voir quels sont les objectifs que l'agglo se...
Parce que localement, c'est l'agglo qui l'a en main.
C'est l'agglo. C'est une compétence qui appartient à l'agglo. Et chaque agglo, normalement, devait finir son plan climat en 31 décembre 2018. Il y a 2% des territoires en France qui l'ont fait. Oui. Donc vous voyez le retard aussi. Oui, et du coup, ça montre aussi l'urgence à laquelle les élus mettent ce sujet. Et donc du coup, on est sur une phase où on est en dialogue avec les élus de l'agglo, sur ce plan climat qu'on a analysé sur trois secteurs, la mobilité, l'agriculture et l'alimentation, et le troisième, les déchets.
Alors, les responsables de l'agglomération, c'est M. Grivoz et M. Olivier Mandon, je crois.
Hein. M. Grivoz est en responsabilité et délégué au plan climat, et M. Mandon est délégué sur la mobilité.
D'accord.
Ce sont les deux interlocuteurs principaux.
Donc, c'est à eux, quand vous avez des propositions à faire, des réunions...
Des réunions avec eux toutes les 8 semaines à peu près. Oui. Après, ça fait depuis le mois de novembre à peu près qu'on se voit, et on a besoin de passer à la vitesse supérieure là maintenant. C'est-à-dire qu'on leur a fait part de notre les surprises qui n'en étaient pas une, mais voilà, on a fait part du fait que ce plan n'était pas assez ambitieux, qu'il fallait le rendre plus ambitieux.
Que je crois qu'il a eu des problèmes quand il a dû être validé.
Alors, dans sa phase d'examen par l'État, effectivement, le projet il a il a été voté par l'AGLO en mai 2018. Ensuite, il est passé dans les services de l'État. Et là, il a été retoqué parce qu'effectivement, il y avait des erreurs sur le diagnostic initial.
D'accord.
Donc, il est reparti. Il a été revu de nouveau par le prestataire de l'AGLO, un bureau d'études. Et là, il devrait être de nouveau du côté de l'État pour être validé. Et il passera... c'est comme ça que la loi française le prévoit. Et on voit toute la non-participation citoyenne. Mmh. Il devrait arriver devant les citoyens pour un examen, ce qu'on appelle...
Une enquête d'utilité publique.
Une enquête publique. Il devrait arriver pour consultation publique à la rentrée.
D'accord. Donc, ce qui veut dire que ce cabinet, il sort d'où ?
Bon, il a été presté sur appel d'offres, comme
oui,
d'habitude.
Voilà. Il a quoi comme compétence ?
C'est le cabinet Algo et Management qui a Culli et qui fait de l'appui aux collectivités territoriales, qui a une compétence pour faire ça. Mais après, c'est un cabinet, c'est technique, quoi. C'est aux élus de porter la vision politique.
Et un cabinet, il répond quand même aussi à un cahier des charges, donc on peut imaginer que son indépendance, parce que c'est comme ça que ça marche, n'est peut-être pas totale.
En tout cas, on peut imaginer qu'effectivement, que ce que lui propose ne soit pas forcément... on ne le retrouve pas dans la copie finale qui est validée par le politique.
On parlait justement de ce manque de collaboration entre les services de l'agglomération, ce cabinet et les structures de terrain comme Alternativa. Mais il y en a d'autres. Ça veut dire que vraiment, vous n'avez participé à rien ? On vous a donné le document final ?
Non, on a demandé le document final.
Oui,
enfin, on est allé le récupérer parce qu'il devient un document public à partir du moment où il est voté par l'AGLO.
Voilà.
Donc c'était en mai 2018. Là encore, les pratiques de l'AGLO aujourd'hui ne sont pas suffisantes en matière d'accès aux documents publics. Ce document, il n'est pas sur le site de l'AGLO.
D'accord.
Il faut batailler pour le chercher. On l'a eu. C'est un document de projet. On ne sait pas pourquoi... Exactement, les services de l'État l'ont retoqué. On ne sait pas comment aujourd'hui, quelle tête il a au jour d'aujourd'hui. Donc,
et vous ne connaissez pas les éventuelles modifications, donc forcément...
Non, franchement, on n'est pas dans un territoire où la participation citoyenne, elle est faite de manière systématique et enthousiaste par les élus de l'AGLO.
Ce sont des sujets qui préoccupent au premier chef la population.
On a fait une marche climat en mai dernier, la première marche climat à Villefranche, il y avait 1000 personnes.
Oui, c'est pour Villefranche, ce qui est une réussite. Alors donc, face à cet fait, vous êtes bien obligé de prendre des décisions, de réagir, parce que vous voulez que vos propositions soient écoutées. Donc il y a tout un travail collectif avec d'autres assos pour essayer de proposer quelque chose.
Exactement. Moi d'abord, ce que je voudrais dire, c'est insister un petit peu sur le fait que bon, voilà, le cabinet, il a bon dos, mais le cabinet, il est là pour travailler sur une vision, sur une ambition qui est apportée par les politiques, vision qui est normalement au service des citoyens. Et on est quand même dans une période où ce plan climat, tel qu'il est élaboré, il porte sur les années qui sont les années décisives. C'est-à-dire que si on écoute tous les rapports du GIEC et des climatologues, si on ne fait rien dans les années qui viennent, c'est foutu. Voilà. Il y aura un emballement, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc il y a une responsabilité énorme à faire en sorte que ce plan climat soit ambitieux. Alors nous, là-dedans, il y a le plan climat qui est le socle, effectivement. Mais à côté de ça, on a une autre opportunité qui s'ouvre, c'est les municipales, municipales de 2020. C'est une fenêtre d'opportunité ça va nous permettre, nous, de challenger à la fois les élus, mais aussi les candidats pour les futures municipalités, qui, eux aussi, finalement, vont être aux manettes jusqu'en 2025 ou 2026, je ne sais plus. Donc, dans cette période où il faut prendre les décisions et où il faut faire quelque chose, où il faut avoir des ambitions. Donc, nous, on va faire un petit peu l'aiguillon de service, avec quand même, au-delà de l'aspect aiguillon, l'aspect proposition. Donc, on travaille Alternativa dans le cadre d'un groupement qui s'appelle le Collectif pour la Transition Citoyenne, qui est un groupement qui regroupe 27 mouvements qui partagent en gros la même vision d'une transition écologique et sociale et humaine que nous. Et ce mouvement, donc, qui est apartisan, indépendant, laïque, a travaillé sur un kit qui comporte 32 mesures, trois grands principes et
que vous allez proposer aux candidats.
Voilà. On va effectivement... Alors, Il faut encore qu'on travaille sur ce sujet en interne entre nous, mais l'idée, c'est effectivement d'amener les candidats à se positionner sur un certain nombre de ces mesures. Évidemment, les 32, c'est très très ambitieux, mais au moins qu'ils prennent des ambitions sur un minimum de 10 mesures, avec différents niveaux d'engagement. Et puis surtout, comme les promesses n'engagent que ceux...
Oui, parce que Nicolas Hulot a connu ça, il a questionné tout le monde. Et
puis, dans les quelques années qui viennent, on va s'atteler. Et c'est là où on a besoin de gens motivés pour nous rejoindre et nous aider, parce que c'est beaucoup de travail. On va s'atteler à suivre ce que les candidats auront promis et faire en sorte que, à travers un monitoring, des tableaux de bord, etc., on puisse mesurer la réalité des engagements qu'ils ont pris. Et non seulement mesurer, mais communiquer dessus.
Et on fera ça de manière très transparente et très volontaire dans la communication, avec des systèmes de compréhension super faciles, très parlants à la population et dont les élus devraient du coup se méfier. Parce qu'on dira effectivement telle décision a été prise en accord avec vos engagements et c'est vert, jaune, rouge en gros, on pourra enfin mesurer les paroles de nos élus locaux ici sur l'agglo à tenir leurs engagements qui vont à mon avis assez facilement arriver. On a vu à quelle facilité les listes se sont verdies dernières semaines au niveau des européennes. Les gens ont pu penser que c'était loin et donc c'était facile de faire des engagements. Sur les engagements locaux, ça va être la même chose. Il va falloir vous engager, messieurs, mesdames, les candidats, et puis tenir ces engagements ou alors être capable de pouvoir répondre à pourquoi vous n'avez pas fait ce travail. C'est un travail qui a été fait dans la précédente mandature au Pays Basque et qui porte ses fruits puisque un certain nombre, tous les ans, il y a un rapport qui est publié, une conférence de presse. On aura le plaisir de venir vous revoir l'année prochaine pour le premier rapport. Et voilà, c'est des choses qui localement sont pas forcément agréables à vivre pour des élus.
Voilà, pour les élus et pour la population qui est donc bien entendu qui devra suivre, la population directe ou bien les enfants, parce que c'est pas tout de dire qu'on aime la famille et tout ça, mais il faut peut-être se préoccuper du monde dans lequel va vivre notre descendance. Alors justement, si cette population elle veut soutenir ou bien tout simplement se renseigner, aller découvrir les documents que nous avons évoqués, comment on fait pour joindre sur Villefranche Alternativa?
Alors vous pouvez nous écrire, l'adresse elle est toute simple, c'est Villefranche 69 @alternativa.eu et on est derrière et on vous répondra. Et puis sinon, vous pouvez aller faire un tour sur notre page Facebook Villef Alternativa, Villefranche, Beaujolais, Saône.
Alternativa, Villefranche 69. Voilà. Je vous remercie, Anne-Sophie Trujillo et Vincent Verluis, d'être venus nous présenter cette association, ces actions. Et puis, ma foi, on vous dit à bientôt, parce qu'il est bien entendu que nous vous accompagnerons. Voilà, c'était Et si on en parlait ? À bientôt !